force, la gravité qui existe entre nous, à un mètre l'un de l'autre. Mes grands calculs m'ont donné 2,2977948899 × 10 exposant moins 7 newtons. Dans ma classe de physique, j'ai réalisé qu'Isaac Newton était un romantique avec sa théorie de la gravité. Et pourquoi nos deux corps se sont attirés? Ce n'est pas une pomme qui lui est tombée sur la tête, c'est plutôt un coup de foudre au fond de son être, rêvant tout doucement à ce grand mystère. La réponse lui est venue dans ses calculs. J'ai calculé la force, la gravité qui existe entre nous, à un mètre l'un de l'autre. Mes grands calculs m'ont donné
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission État de splendeur, émission qui traite de différents aspects et différentes manifestations de culture authentique au Québec, tant du monde traditionnel que de l'avant-garde aussi. Aujourd'hui, on a plusieurs sujets qui transcendent un peu les limites habituelles des sujets, c'est-à-dire qu'on va explorer des initiatives qui se passent, qui concernent État de splendeur, c'est-à-dire qui sont des manifestations authentiques culturelles, soit de producteurs, d'entreprises ou d'individus qui font des choses qui sont un peu caractéristiques de leur coin de pays. Et on va explorer ça dans des exemples de ceci au-delà des frontières du Québec. Alors, il y aura plusieurs différents exemples de ça. Et pour tout de suite, on va débuter avec quelques actualités sur ce sujet. Donc, nous allons commencer tout ceci et on va faire un tour du côté des États-Unis et de l'Afrique au courant de l'émission, tout en explorant quelques exemples d'initiatives dignes de mention qui se trouvent au Québec, surtout dans la région de Montréal. Donc, c'est ceci pour tout de suite sur État de splendeur. Donc, aux actualités à État de splendeur, il y a surtout deux événements particuliers. Il y a toujours, premièrement, le marché fermier qui a lieu à chaque jeudi au coin de Laurier et Saint-Dominique, qui va débuter un peu plus tard, autour de 14h30. Et là-bas, on peut y trouver quelques produits qui sont un petit peu plus typés que des produits qu'on trouve au marché public qu'il y a aux sorties des métros, par exemple. C'est différents producteurs fermiers. Il y a un producteur de fromage de brebis, producteur de charcuterie, producteur de petits fruits, évidemment, aussi. Et ça vaut le détour si jamais vous avez le temps. C'est au coin de Saint-Laurier et Saint-Dominique à 14h30 aujourd'hui. De plus, il y a un autre marché qui est un peu comme un marché de niche, si on veut. C'est le marché solidaire Frontenac. C'est pour le quartier qui se retrouve aux alentours des coins des rues Ontario et d'Iberville. On y retrouve différents petits producteurs, souvent des producteurs biologiques, qui font différentes productions agroalimentaires, mais aussi certains kiosques d'artisanat. C'est un marché qui offre des produits qui sont quand même assez inusités, donc ça vaudrait le détour. Mais le but premier de cette initiative-là, c'est d'aller offrir des aliments de qualité en plein cœur d'un quartier qui avait jusqu'à tout récemment pas une offre si riche de différents produits de qualité. Donc, ça favorise un peu la qualité de vie de ce coin de Montréal. C'est un marché qui a lieu encore pour 2 semaines. Ça a lieu à chaque samedi et c'est-à-dire jusqu'au 16 octobre. Ça sera la dernière édition du marché solidaire de Frontenac. Donc, ce samedi, si vous avez rien à faire. En 10h AM et 17h, il y aura lieu au coin des rues Ontario et d'Iberville, le marché solidaire Frontenac. Et puis, ça vaut quand même le détour. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler de... Parce que généralement, à État de splendeur, on parle de petits producteurs qui font... souvent, ça peut être des petits producteurs biologiques ou des producteurs traditionnels qui sont un peu comme les porteurs d'un héritage culturel ou des innovateurs qui ont réussi à faire une production qui est un peu en continuité de la de certaines caractéristiques de la culture au Québec. Aujourd'hui, on va essayer de transcender ce modèle type et voir où peut résider ailleurs la splendeur dans la culture. Et on va voir que ça ne se limite pas aux petits producteurs. Il y a souvent, on perçoit une rivalité entre les petits producteurs versus les gros producteurs. C'est sûr qu'il y a une certaine différence entre les deux, puis certains gens aiment bien encourager les petits producteurs, mais il ne faudrait pas voir ça comme une rivalité, parce que si ces deux secteurs qui sont en compétition, ça va être la guerre, et puis c'est pas très favorable, surtout pour les petits, puisque les petits n'ont pas vraiment moyen de faire la guerre avec les gros, et puis de toute façon, c'est pas une genre de relation qui va faire un marché très dynamique à l'avenir, puisque cette dynamique-là n'est pas... ça risque d'inhiber une autre effervescence qui pourrait se retrouver dans le marché si on considère les petits producteurs et les gros producteurs comme deux facettes d'une même médaille. En fait, l'un ne vise pas à remplacer l'autre, puisque la production de masse, il y en aura toujours. C'est-à-dire, tant qu'on vit dans une société avec une grande population et puis des besoins assez géants, il y aura toujours un réel besoin de production de masse. Bon, peut-être pas n'importe quelle forme de production de masse, mais il y aura toujours un besoin de production de masse qui est un peu basé plus sur la quantité que la qualité. Mais plutôt que de voir les petits producteurs et la grande industrie comme deux secteurs en compétition, il faudrait observer la relation de symbiose qui peut exister entre ces deux secteurs-là. Et pour illustrer la relation de symbiose qu'il peut y avoir entre les petits producteurs indépendants et la grande industrie, un très bon exemple peut être le secteur des fromages au Québec, puisque c'est une réalité qui est assez... c'est assez... unique, quoi qu'on retrouve un peu le même phénomène ailleurs dans d'autres secteurs à travers le monde occidental. Mais l'industrie fromagère au Québec est assez unique dans le continent nord-américain, donc c'est un très bon exemple pour pouvoir illustrer la matière dont je vous parle. Alors, au Québec, il y a des petits producteurs de fromage, évidemment, des producteurs artisanaux, des producteurs fruitiers et des producteurs fermiers. Et il y a aussi, évidemment, la production de masse. Et avant les années, disons, 70, il y avait surtout que de la production de masse. Là. Il y avait le Oka qui ressortait un petit peu de la norme, parce que c'était un héritage qu'on avait conservé depuis les moines de la trappe d'Oka, qui est maintenant devenu Saint-Jean de Mata, si je ne m'abuse. Et... Donc, à l'époque, il n'y avait que des productions de masse. Il y avait certains petits... c'est faux de dire ça, mais la bonne part de la production fromagère au Québec provenait du secteur industriel. Dans les années 90, ou fin 80 et 90, on remarque une renaissance des fromages au Québec. Les gens décident d'aller repuiser dans certaines techniques pour faire ressusciter certains fromages qui étaient assez répandus en Nouvelle-France, ou décident d'aller faire des stages en France pour pouvoir aller récupérer une part de savoir-faire qui avait été un peu avortée depuis un certain temps sur le continent. Donc, il y a une renaissance des fromages qui a été faite au Québec, et ça, c'était tous des producteurs indépendants, des petites fermes qui décidaient de donner une plus-value à leur lait, puisque c'est de plus en plus difficile d'assurer la rentabilité sur des petites fermes. Donc, ce qui est arrivé, c'est que les petits producteurs ont quand même fait des très bons fromages, et puis le public en était très avide, donc ils ont commencé à consommer ça, et puis évidemment, comme vous pouvez vous l'imaginer, l'industrie a commencé à se poser des questions. Est-ce qu'on est en train de perdre une part de marché? Qu'est-ce qui se passe? Devrions-nous nous alarmer et faire la guerre aux petits producteurs? Il semble que ce soit un peu la réalité actuelle, là, qui est une guerre, mais en réalité, si on fouille plus profondément, il y a eu une réflexion qui a été faite Et puis, si on regarde la production des fromages à l'époque, il y avait, bon, certains, bon, il y avait surtout des cheddar, il y avait le Oka, et puis il y avait certains fromages italiens de base, là. C'est à peu près tout ce qu'il y avait. Sinon, il y avait certaines productions marginales, mais c'était pas répertorié. Et puis, quand il y a eu la renaissance des fromages québécois dans les années 90, là, même début 2000, mais surtout dans les années 90 que ça a débuté, là, ils sont vus que, bon, ils sont peut-être en train de perdre une part de marché et tout ça. Mais en réalité, c'est que c'est sûr que les petits producteurs indépendants ont pris une part de marché, mais le volume total de fromage vendu, ou plutôt le dollar dépensé en fromage par ménage, a augmenté au total au Québec. Alors, dans le fond, ça a fait de sorte qu'il y a plus de demandes en fin de compte dans le marché. Et ça a des répercussions bénéfiques même pour la production industrielle. Et puis aussi, c'est que l'industrie avait été stable depuis bon nombre d'années, et puis il n'y avait pas vraiment eu d'innovation. Et puis l'arrivée des producteurs indépendants de fromage au Québec a apporté une avant-garde qui a un peu réactualisé le palais moyen au Québec, ce qui a pousser un peu la clientèle à raffiner son goût, puis à rechercher des fromages d'une meilleure qualité. Alors ça a poussé ensuite les grandes industries fromagères à faire des produits de plus en plus haut de gamme et sur lesquels ils développaient des nouveaux marchés. Donc ça aussi, ça a été une source de rentabilité pour l'industrie aussi et une source de surpassement pour l'industrie. C'est donc pour dire que les deux secteurs peuvent tout à fait coexister. C'est sûr que l'un veut avoir une plus grande part de marché et l'autre aussi essaie de survivre. Il y aura toujours une certaine rivalité, mais c'est quand même deux éléments qui resteront toujours présents. Et puis l'un nourrit l'autre. Il peut y avoir bonne entente entre les deux secteurs de petits producteurs indépendants et la grande industrie. Et donc, il est donc nécessaire d'avoir des bons produits de masse aussi. Et sinon, c'est parce que si l'industrie de masse n'est pas stimulée à se surpasser, là, ça devient moins intéressant. Et on va voir qu'il y a quelques exemples de production qui existent. C'est des productions de masse, mais qui sont de très haute qualité. Et puis ça, c'est une genre de production qu'il faut souligner, et nous allons le souligner tout de suite après cette pause musicale que voici avec le groupe anglais Massive Attack. You move to the country. venez d'entendre la pièce Spying Glass de Massive Attack, le groupe anglais. Et puis, c'était issu de l'album Protection, sorti en 1995. Donc là, on est en train de parler de la rivalité des produits indépendants, des productions indépendantes, souvent des petits produits régionaux, versus la production industrielle. Et puis, que dans le fond, il existe une relation symbiotique entre les deux. Et ça peut être favorable que les deux soient présents sur le marché et l'un peut en fait encourager l'autre à exister. Il y a un certain retour de balancier qui oblige les deux secteurs à se surpasser et puis il peut avoir des relations très favorables entre ces deux qui ont pourtant des secteurs de marché très différents. C'est ça, ils ont des secteurs de marché très différents. Par exemple, au Québec, il y a des productions de confiture, évidemment, comme partout dans le monde, ou presque partout dans le monde, j'imagine. Des productions de confiture de toutes sortes, avec souvent, c'est des petits producteurs qui essayent de mettre en valeur la qualité de leurs produits. Et il existe aussi des productions de masse de confiture. Comme par exemple, sans mentionner de marque, on peut mentionner quand même Kraft, là, qui est assez immense, ce serait dur de passer à côté. Et puis à côté, il y a des produits, tout petits produits de niche. Mais en fait, c'est que les gens qui sont à la recherche d'un produit économique, donc de plus de quantité versus qualité, vont opter pour des produits de masse. Donc souvent Kraft et tout ça. Et si c'est pour ça qu'il peut être favorable d'encourager à certaines instances l'industrie de masse pour pouvoir compétitionner cette production de masse-là. C'est pour ça que nous avons, par exemple, La Fraisonnée. La Fraisonnée est une compagnie qui fait des confitures, mais c'est surtout une production de masse. Ce n'est pas une production particulièrement typée. Et puis, c'est une compagnie qui est née en 1989 à Clerval, en Abitibi. Et cette compagnie-là concurrence directement Kraft. Et c'est une assez grosse production, mais c'est intéressant quand même si c'est une production de masse qui ne mise pas trop sur la qualité, c'est que ça nous donne quand même une option en tant que consommateur pour acheter la Fraisonnée et pouvoir encourager le village de Clerval en Abitibi, par exemple. Autre exemple de production de masse intéressante, tout le monde connaît American Apparel. C'est une compagnie qui est peut-être née avec un certain principe de base qui était louable, c'est-à-dire encourager la rémunération éthique des productions de vestimentaires, de textiles, qui souvent sont du cheap labor, donc ils voulaient un peu se démarquer en offrant des produits éthiques. Bon, cette chaîne-là a un peu dominé la planète. Et puis, répondait à un certain besoin, les consommateurs allaient y acheter. Mais une compagnie est née de la sorte au Québec et ça s'appelle Blank. Et puis, cette compagnie-là concurrence directement American Apparel et donne une occasion pour les consommateurs de pouvoir acheter local, d'acheter écologique et puis d'encourager le respect des travailleurs, mais dans le contexte québécois. Ce qui fait de sorte que Blank, même si ça peut être considéré comme une production de masse ou une production industrielle, c'est quand même quelque chose qui va actualiser la production vestimentaire au Québec et puis donner l'option aux consommateurs d'acheter québécois, donc un produit de masse, mais fait ici. C'est donc deux exemples de production de masse qui peuvent être louables parce que ça finit par créer une espèce de mouvance de surpassement dans ces industries-là et on se retrouve avec une production de masse mais qui produit des produits québécois équitables. Donc, il y a des initiatives qui sont assez importantes et admirables qui peuvent être présentes au sein de l'industrie standard de masse aussi. Et on va voir que cette forme d'initiative admirable peut se retrouver dans d'autres secteurs également. Et on va voir au retour de la pause publicitaire qu'il y a dans quelques secondes qu'il y a les initiatives qui concernent l'état de splendeur ne se limitent pas au Québec traditionnel. On peut aussi retrouver des innovations qui, avec le temps, finissent par représenter les caractéristiques culturelles d'un endroit. Et puis, ça se retrouve à travers la planète, des exemples comme ça. Donc, c'est ce qu'on va explorer après la pause publicitaire que voici. à Radio Centre-Ville sur État de splendeur.
De matelas. On en a des petits, des grands. On en a pour tous les gens. Venez nous voir, on a toutes sortes de matelas. On en a des durs, des mous. On en a pour tous les goûts. Visitez Lidor.com pour votre prochain matelas. Venez nous voir, on vous attend. 655-2 Saint-Laurent.
Lidor, 65-52 Saint-Laurent.
Global Montréal et la Fondation Fabienne Cola vous invitent au 7e Festival international du film Black de Montréal du 22 septembre au 2 octobre. Venez découvrir la culture noire des quatre coins du globe à travers les plus grands films Black. 125 films palpitants, 80 premières, 35 pays. Admission, 10$ par film. Carte ciné accès de 10 films, 70$. Ou encore, carte cinéphile illimitée, 100$. Du 22 septembre au 2 octobre au cinéma du Parc, à l'Impérial et à l'ONF. montrealblackfilm.com.
Est-ce lundi soir ou mardi matin? La ville semble dormir et pourtant, savais-tu qu'entre 3 et 6 heures AM, l'espace s'ouvre sur des univers fantastiques et jouissifs? Des légendes oubliées, des vortex encore plus explorés, parfois même un peu tordus. Piloté par Alain Caron, l'émission L'Académie attise déjà ta curiosité. Il te faut l'écouter en direct ou en podcast à radiocentreville.com.
Ici Miles Taylor de Jazz Boulevard. Je vous invite à me rejoindre tous les vendredis à minuit sur la grille anglophone de Radio Centreville pour 2 heures de musique et entrevues du monde de jazz. À vendredi!
Radio Centreville permet à chacun de comprendre et de participer à la recherche de solutions pour créer une meilleure cohésion sociale. Faites un don à Radio